Henriette, ce sera dans moins de 60 minutes. En attendant, on va faire notre tour d'Afrique. Nous allons commencer bien évidemment par Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Il est question de revenir sur le match de mardi qui a opposé la Centrafrique au Maroc à Oujda. Christian Dota, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous.
Alors, après le 5-0 du match aller, 4-0 sur le match retour, ça fait deux camouflés, deux gifles. Comment l'opinion publique centrafricaine a perçu le deuxième match face au Maroc ?
Bon, le public centrafricain a très mal perçu ces deux défaites, surtout la dernière défaite 4-0. Et comme je vous le disais, maintenant on se tourne vers les deux derniers matchs, puisque à 3 semaines des matchs de la 5e journée contre le Lesotho et la 6e et dernière journée contre le Gabon, la fédération fait l'objet de nombreuses critiques de la part des supporters. Un groupe WhatsApp a même été créé et qui appelle à la mobilisation pour trouver des stratégies afin d'évincer l'actuel comité exécutif. Pour ma part, une initiative qui risque de ne pas aboutir si l'on tient compte des textes de la fédération qui stipulent que seule une assemblée générale extraordinaire avec les deux tiers de membres peut donc statuer. Néanmoins, la fédération est montée au créneau à travers deux communiqués diffusés sur sa page Facebook. Une première fois le 17 octobre pour dénoncer, je cite, des individus qui planifient des manœuvres de déstabilisation du comité exécutif, projet qualifié de sordide, fin de citation. Dans le deuxième communiqué, la fédération condamne fermement toutes les personnes qui sur des réseaux sociaux profèrent des injures contre les joueurs et d'ajouter qu'elle ne va tolérer aucune agression verbale. Pendant ce temps, Kelly Yuga, un ancien joueur de l'équipe nationale et qui est actuellement le directeur sportif de la fédération prévient, et je le cite maintenant, chacun doit assumer ses responsabilités dans les défaites des fauves. Il est essentiel que nous réglions le problème des capricieux et des opportunistes dans le football centrafricain. Fin de citation. Toutefois, il ajoute que mathématiquement, la RCA est toujours dans la course pour la qualification à la CAN 2025 au Maroc, avec les deux matchs cruciaux qui restent à jouer, et tout le monde doit donc rester concentré, conclut-il. Voilà donc, Amine, en attendant, le public s'interroge sur le lieu du dernier match contre le Gabon.
Le public s'interroge du lieu sur le dernier match contre le Gabon. Je rappelle qu'il va falloir aller en Afrique du Sud affronter le Lesotho et battre le Lesotho pour se qualifier. On est dans l'actualité de la République centrafricaine, il n'y a pas de championnat et pourtant la sélection est engagée dans les éliminatoires du CHAN où elle va devoir en découdre avec le Cameroun.
Oui, tout à fait. Tu as raison, Amine. Les fauves locaux se préparent pour cette CHAN depuis la mi-septembre déjà, afin d'affronter les Lions du Cameroun. Et c'est dans 2 mois exactement, rappelons-le, que c'est entre le 20 et le 27 décembre pour les matchs aller et retour. Et pour cela, 33 joueurs ont été convoqués et parmi eux se trouvent 12 joueurs qui évoluent dans les ligues de province. C'est une nouveauté car depuis toujours, les joueurs appelés en sélection provenaient uniquement du championnat de Bangui. Rappelons que lors des éliminatoires de la précédente CHAN 2022, la RCA avait été battue en aller comme en retour par le Congo-Brazzaville.
Ça veut dire que les chances sont bien moindres. Il faut d'ailleurs des joueurs compétitifs. Quid du championnat ? Est-ce qu'il va finalement démarrer ou bien on va devoir faire avec des joueurs en manque de compétition ?
Exactement, comme tu le dis Amine, le championnat de la Ligue de Bangui, qui en fait est le championnat d'élite, même si c'est un championnat de très bas niveau, va finalement démarrer le 24 octobre, c'est-à-dire dans 4 jours, soit une semaine après la date initialement prévue. Il y aura 12 clubs en division 1 et 18 clubs en division 2 répartis en 2 poules. Et à la fin du championnat de 2-2, il y aura un play-off pour déterminer les 2 clubs. Et comme tu l'as dit, pas de championnat, les joueurs sont obligés de s'entraîner dans un complexe local pour avoir des compétitions dans les jambes. Et sans compétition véritable, ce sera véritablement un gros handicap pour affronter cette équipe du Cameroun quand on sait que le football local camerounais est très 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 compétitif avec un championnat également de grande facture.
Un championnat pourtant, au Cameroun, on se plaint du niveau du championnat et on se plaint aussi de la qualité des joueurs locaux. Il faut rappeler juste que Coton Sport était le seul club camerounais engagé dans les compétitions continentales et qui n'a pas fait long feu. Donc ça veut dire aussi que la Centrafrique a ses chances dans cette double confrontation et encore faut-il peut-être un appel à la mobilisation générale et oublier un peu ce qui sépare pour pouvoir se concentrer sur ce qui unit.
Tout à fait. Effectivement, c'est ce que tout le monde souhaite ici. Déjà, en intégrant dans cette équipe des joueurs qui jouent en province, qui n'ont pas l'habitude de jouer de grandes compétitions, Ça devrait permettre de détecter, mais le temps est très court pour cette préparation, car la CHAN est quand même une compétition d'assez haut niveau, et en 2 mois de préparation, surtout au niveau local, il faudrait des automatismes pour créer cette cohésion, afin de pouvoir présenter une équipe qui soit capable de pouvoir dominer l'équipe du Cameroun dans 2 mois.
Merci infiniment Christian Dotta pour toutes ces explications. Bonne chance à la Centrafrique, elle va devoir pour aller à la CAN ramer. Il faut prendre les 6 points contre le Lesotho en Afrique du Sud, puis contre le Gabon dans un match couperé. Je rappelle que la Centrafrique n'a que 3 points sur 12 possibles, alors que le Gabon en a 7. Le Maroc est qualifié en tant que pays organisateur et finira forcément avec ses 4 victoires consécutives, voire même plus si les Lions de l'Atlas se montrent aussi performants que lors de leurs 4 précédents matchs. La place de leader du groupe est réservée au Maroc, et puis on verra pour le deuxième qui sait qui va se qualifier. De toutes les façons, il n'y avait qu'un qualifié sur le terrain dans ce groupe-là, puisque le Maroc est pays organisateur. Donc on verra, mais les chances de la République centrafricaine sont bien moindres. Merci beaucoup Christian Dotta. On retrouve une page de pub et tout juste après, nous continuerons notre tour d'Afrique.
Mars Attack du lundi au vendredi de 7h à 9h30. Ahmed Rouissi en compagnie de Linovaco et leurs consultants attaquons la planète Mars sur Radio Mars. Suivez Mars Attack sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports, partenaire numéro 1 du sport national.
MDJS, faire gagner le sport.
Merci de votre fidélité à Radio Mars et à Mars Africa en particulier. Nous continuons notre voyage à travers le continent. Nous poserons nos valises du côté de Boïko, Bénin, avec Élisée Nkpatine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Amin Virouk et bienvenue à Boïkon où il fait beau temps.
Il fait beau temps comme ici à Casablanca. Alors on va parler de ce match Rwanda-Bénin où les Rwandais ont joué un bien mauvais tour à la sélection béninoise. Le Bénin menait 1-0, il s'est fait rejoindre, il a perdu le match, il a surtout perdu une opportunité plus rare qu'unique de se qualifier dès la 4e journée pour la CAN.
Ouais, et ça fait encore une fois que le Bénin va quand même tenir des calculettes lors des 2 prochaines journées. On l'a vu durant les 2 dernières CAN où ça a été véritablement compliqué pour le Bénin. Pour la CAN camerounaise, on a vu comment ça s'est terminé pour celle d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, où le Bénin pouvait seulement prendre un seul point, petit point, afin d'être du côté de la Côte d'Ivoire. Et on se rappelle encore de ce match très douloureux qui reste toujours dans les mémoires des férus du ballon rond, les férus de l'équipe nationale, où le Nigeria est venu battre le Bénin à Cotonou 1-0. Depuis un certain moment, eh bien, le Bénin réussit. Ça a réussi très bien pour le Bénin du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. On a vu ces 4 victoires, 2 contre le Rwanda, et 1 contre la Libye, et puis contre le Nigeria, qui n'a pas du tout digéré cette défaite. En témoigne la raclée lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, un 3-0, un 3-0 infligé aux Béninois. Maintenant, il fallait réagir, les Béninois l'ont fait. D'abord contre la Libye 1-0, puis face au Rwanda 3-0, on a compris et que les Béninois veulent enchaîner, que les Béninois ont compris, c'est pas retrouver leur jeu, et que le système de Gernot Rohr a commencé par marcher. Ce même Gernot Rohr a mal géré le match retour du côté de Kigali, où les Béninois qui ont pris l'avantage à la 42e minute de jeu, il fallait quand même savoir comment gérer. Est-ce que en seconde partie, il faut attaquer afin de faire le break, et bien ce que le technicien franco-allemand n'a jamais su faire, et a laissé les Rwandais revenir au score, puis dans la foulée prendre l'avantage. C'est quand même une grande déception du côté de Béninois dans les rues de Cotonou, et en tout cas sur toute l'étendue du territoire. On a vu la réaction de ses supporters, ils n'ont pas du tout ménagé le technicien franco-allemand Gernot Rohr, puisque pour eux, le seul responsable de cette défaite, c'est bien sûr le technicien franco-allemand. Vous imaginez le Bénin qui, quand même, était à un doigt de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, puisque cette victoire pouvait lui permettre quand même d'assurer au moins, de finir au moins à l'une des 2 premières places de ce groupe-là. Désormais, le Bénin n'a plus son destin en main, puisqu'il lui reste deux finales. Et ça commence d'abord pas. Le Nigeria, il faudra battre à coup sûr. Le Nigeria est espéré quand même que ces mêmes Nigériens battent les Rwandais lors de la dernière journée. N'oublions pas aussi la Libye qui est à l'affût. Donc, ça se complique une fois encore pour ces Béninois qui n'ont plus leur destin en main. Grosse déception ici à Cotonou. Grosse déception dans tout le pays. Le Bénin qui, est-ce que, ou bien la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que le Bénin va manquer une troisième Coupe d'Afrique des Nations d'affilée? En tout cas, on le saura en novembre prochain. Là, il faudra bien préparer ces deux finales-là, puisque ça ira très très vite.
D'ailleurs, je rappelle que les rendez-vous sont pris à la mi-novembre. On reste dans le giron du football. Il y a la CAN de beach soccer qui a démarré à Al-Radlaqa en Égypte. Le voisin gagnant s'est incliné face à l'Égypte 6 buts à 3 et le Maroc a disposé très difficilement 4 à 3 de la Tanzanie. Ça veut dire que l'écart se resserre entre les nations et que le Sénégal, l'Égypte et le Maroc qui vont légitimement aspirer à deux des places qualificatives pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu aux Seychelles vont être menacés, voire titillés par d'autres nations.
Ouais, on le saura. En tout cas, belle entame hein, du pays hôte. L'Égypte, comme vous l'avez dit, a battu quand même le Ghana 6 à 3. C'était très facile, plus difficile. Le Maroc, c'est vrai que quand on prend cette discipline, le football réduit sur un terrain comme le handball, vous imaginez, on connaît très bien le Maroc qui est très fort. D'ailleurs, le futsal, il n'y a pas d'égal hein, sur le continent africain. Dans le sable, c'est bien sûr le Sénégal hein, qui domine sans partage depuis 4 éditions, vous imaginez. Et le passage d'un technicien sénégalais dans le royaume a permis aussi aux Marocains de rehausser un peu le niveau, du big soccer, vous imaginez. Le Maroc aujourd'hui et l'Égypte qui font quand même de très bons outsiders, il faut le dire. Le Sénégal, une fois encore, veut garder son bien, mais attention à l'Égypte et au Maroc qui quand même sont derrière et qui peuvent créer la surprise, qui peuvent créer la sensation comme ce fut le cas il y a cela quelques années, je me rappelle plus bien de l'année, mais comme Madagascar qui est venu créer la sensation en remportant cette Coupe d'Afrique de Big Soccer, vous imaginez. Donc attention à ces deux pays-là, l'Égypte et le Maroc, qui quand même ont bien démarré. On aura une chose est sûre, on aura une très belle Coupe d'Afrique des Nations sur le bord du Nil. Ah, les Sénégalais sont avertis.
Les Sénégalais sont avertis, comme les fans de handball ont été avertis, puisqu'ils ont vu une belle équipe béninoise de Flowers qui a atteint la finale de la Champions League. Elle a perdu hier contre l'Ali d'Égypte. Mais bon comportement d'ensemble du club béninois qui finit sur la deuxième marche du podium lors de cette édition disputée à Laayoune.
Ouais, à Laayoune, la belle ville de Laayoune, et ceux qui étaient l'ont dit, et ils ont quand même eu la chance hein, de visiter cette belle ville, vous imaginez. Et les Flowers qui sont champions du Bénin en titre, qui ont détrôné la grande équipe d'Adija. Adija, c'est l'équipe des forces armées du Bénin, c'est un petit animal, hein, Adija, comme du genre Poc et Pic, hein, vous imaginez. Donc Adija, qui a aussi fait forte sensation dans cette compétition, et le match qu'il ne fallait pas perdre, eh bien, les militaires l'ont perdu, ce qui les a relégués en deuxième position. Et puis, en quart de finale, ils ont perdu contre les Zamalek. À son tour, les Zamalek qui perd en demi contre Al Ahly, le champion en titre. Flowers, qui quand même permet au Bénin de disputer sa troisième finale de Coupe d'Afrique des clubs champions, puisque les deux premières fois, c'était avec les Pélicans de Cotonou, ce club qui n'existe plus aujourd'hui. Les Pélicans qui ont fait les beaux jours du handball béninois aujourd'hui. Flowers qui quand même a surpris plus d'un pour aller en finale et qui quand même a tenu tête hein, aux Égyptiens, même si l'expérience a eu raison d'eux. Il faut dire, Flowers, très content. Le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, qui a été un ancien handballeur aussi, puisque lui aussi avait évolué sous les couleurs de Flowers. Flowers, le club qui appartenait à un Maya de la presse et béninoise, c'est bien Charles Toko, qui a cédé sur le club désormais au Centre national de la sécurité sociale. Donc, c'est quand même une très belle équipe de Flowers qui a fait un très bon parcours lors de cette compétition de handball du côté du Maroc. C'était quand même un très bon parcours. Félicitations à cette équipe. Cela montre combien de fois le handball a progressé au Bénin, puisque la vision de son nouveau président, Sidikou Karimou, c'est bien sûr valoriser cette discipline et faire connaître le Bénin à travers le continent africain. L'objectif est clair. D'ici 5 ans, il faut commencer par prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de handball et aussi aller chercher des trophées au niveau des clubs.
Merci infiniment, Élisée Onkpatine. On se retrouve dimanche prochain ou samedi prochain, on verra. Probablement qu'on avancera l'émission à samedi puisque nous aurons ici à Casablanca le marathon international et nous aimerions bien évidemment le couvrir de bout en bout. On vous informera en temps voulu. Il est 11h18, cap sur la Côte d'Ivoire avec Elisabeth Gauly. Bonjour.
Bonjour Amine, bonjour chers amis de la Radio Mass.
Alors la Côte d'Ivoire est tombée de très très haut à Monrovia face à la Sierra Leone, 1-0. Personne ne s'attendait à cette contre-performance. On voulait même voir la Côte d'Ivoire qualifiée après 4 journées automatiquement pour défendre sa couronne lors de la prochaine CAN.
Effectivement, ça a été la désillusion pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et la première défaite sous la houlette d'Emes Faillet n'a vraiment pas été facile pour les Ivoiriens qui jusque-là ne digèrent pas voir que c'est la Sierra Leone qui bat la Côte d'Ivoire 1-0, une contre-performance qui suscite beaucoup d'interrogations aujourd'hui au niveau des observateurs du football africain qui pour la plupart sont indignés et cela se voit sur les réseaux sociaux où il y a eu vraiment beaucoup de réactions. Mais néanmoins, le président de la Fédération Ivoirienne est le sélectionneur Emes Faillet ont essayé d'expliquer un peu tout en disant qu'il fallait aussi que ça arrive un jour afin que les uns et les autres puissent vraiment se préparer en sachant bien qu'une défaite peut arriver à tout moment, quelle que soit la sélection. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Emes Faillet a toujours dit qu'il respecte tous les adversaires que la Côte d'Ivoire va rencontrer sans se mettre au-dessus de qui que ce soit. Et c'est vraiment une défaite un peu amère, surtout que les Ivoiriens espéraient se qualifier avant le terme. Bon, mais malheureusement, c'est pas arrivé. Il va falloir encore attendre et surtout croiser la Zambie qui n'est pas un morceau facile. Et donc, c'est cela aussi le destin de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Mais toutefois, les gens croient toujours à la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire.
Qualification qui devrait être scellée au mois de novembre prochain. Toutefois, il y a eu des flops et ils sont nombreux, en particulier celui d'Éric Bailly avec un retour cauchemardesque en sélection.
Oui, effectivement, bon, tout est parti d'Éric Bailly, mais il faut dire que c'est vrai que c'est lui qui est le premier responsable de la faute, mais le sélectionneur Emes Faillet a dit qu'il ne faut pas imputer seulement la faute à un seul joueur, que c'est toute l'équipe qui n'a pas bien joué parce que il aurait pu avoir aussi quelqu'un d'autre qui pouvait intervenir. Donc, tout le monde est responsable de cette défaite et donc, il va falloir se mettre au travail sérieusement et combler tous les compartiments qui ont fait défaut lors de cette rencontre face à la Sierra Leone.
Du coup, il va falloir digérer une pilule amère puisque la Côte d'Ivoire risque de perdre de très nombreux points, de très nombreuses places au prochain classement FIFA.
Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, bon, c'est pas le classement FIFA, c'est vrai qu'il est important, mais la préoccupation majeure de la sélection ivoirienne, c'est vraiment de se qualifier pour le Maroc 2025.
Se qualifier pour le Maroc 2025, le constat était cash de la part d'Emers Faillet après cette première défaite. Il va falloir remonter les bretelles de certains joueurs qui se sont peut-être un peu endormis sur les lauriers.
Oui, effectivement. Pour les Ivoiriens, vraiment, c'était quelque chose c'était la qualification était acquise. Donc, je crois que ils ont pris un peu, si je peux le dire, ils ont pris un peu de haut cette sélection de la Sierra Leone, mais au-delà du jeu et autres, il faut tenir compte aussi de l'état de la pelouse sur laquelle le match a eu lieu. C'est vrai qu'on dira qu'ils sont 22 à avoir joué sur cette pelouse, mais bon, c'est pas une circonstance atténuante, mais toutefois, il faut en tenir compte et puis, il faut aussi prendre en compte le travail qu'il y a à faire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de relâchement, beaucoup de laisser-aller de la part des éléphants et il n'y a pas eu vraiment cette cohésion dans le jeu des éléphants qui devrait leur permettre de battre la Sierra Leone. Donc, il y a encore du travail à faire pour Faillet et Metz et je crois que cette première défaite, surtout cette défaite face à la Sierra Leone, nous ramène alors à beaucoup de choses, au travail, au collectif, ait pu, surtout au niveau de la défense, il va falloir revoir beaucoup de choses et plus l'humilité, comme le disent les Ivoiriens.
L'humilité qui est la première qualité que doit avoir tout joueur, toute sélection, tout entraîneur pour pouvoir aller de l'avant. On se retrouve la semaine prochaine. Merci infiniment, Elisabeth Gaulier, pour toutes ces explications, pour cette analyse souvent pertinente, ou très souvent pertinente. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain. Il est 11h23, presque 24, une page de pub. Et tout juste après, nous continuerons notre voyage. Et cette fois-ci, nous irons du côté de la Guinée-Conakry.
علاش دابا الوقود وين بروتيكت بلس ديال وينكسو هو احسن ما كاين في السوق؟ باختصار مع الوقود وين بروتيكت بلس الموتور كيبقى ديما نقي محمي واكثر فعاليه كيستهلك قل وكيدوم اكثر وهذا الشيء كله بنفس ثمن الوقود العادي داكشي علاش الوقود وين بروتيكت بلس اللي كاين في ستاسيونات وينكسو مخير بزاف لا مقارنه مع الوقود اللي كيكون زايد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا بلس وداكشي وما تنساش راه ستاسيونات ديال وينكسو كاينين في المغرب كامل وينكسو شركة مغربية بالجودة والرخاء تهلا فيك وفيا
Toujours avec vous, Mars Africa, notre tour d'Afrique se poursuit. Nous irons du côté de la Guinée. Il nous a manqué depuis quelques semaines. C'est Chérif Aliou qui est de retour. Bonjour Chérif, prends rétablissement. Ça va mieux?
Bonjour Amine, oui, ça va très très bien. On a pu récupérer là, donc on est à 100% au niveau de la forme.
Alors ça va nous permettre de faire un petit flashback et de parler des deux victoires de la Guinée face à l'Éthiopie. Ça relance les hommes de Michel Dussuyer dans un groupe de qualification où tout est possible. Les Guinéens, après deux défaites, ont fait correctement leur devoir.
Ah oui, il fallait pas se rater hein, pour ces deux matchs-là. Et là, le Sili de Guinée a bien fait les choses avec à la clé hein, deux victoires contre l'équipe de l'Éthiopie, grâce notamment à son homme providentiel, hein, Chirou Guirassy, qui a été le grand bonhomme de ces deux matchs-là, puisque voilà, en deux matchs, il a planté cinq buts tout simplement. Voilà. Et voilà, la Guinée donc qui, lors du match aller, a battu l'Éthiopie sur le score de 4-1. Match retour, 3-0. Donc, 7 buts inscrits hein, par les hommes du nouvel entraîneur Michel Dussuyer, qui lui aussi était attendu depuis un ferme hein, par les supporters du Sili de Guinée. Mais voilà, le technicien français a su trouver les mots justes pour essayer de galvaniser sa troupe. Il a en tout cas corrigé beaucoup de choses, bien évidemment. Notamment dans son 11 de départ, il y a des garçons qu'on ne voyait pas venir, ben qui ont été alignés et qui ont prouvé. C'est le cas par exemple du milieu de terrain de Leganés qui a été monstrueux. Il y a aussi Malick Camara milieu de terrain également vraiment qui a rendu une copie propre. Et donc voilà, dans les buts, on avait également Moussa Camara Pimpin qui faisait ses premières hein, comme gardien numéro 1 dans la pêche du Sili de Guinée. En tout cas, tous les voyants étaient ouverts pour le Sili de Guinée hein, pendant ces deux matchs. Et du coup, la Guinée se relance dans son groupe derrière la RDC, puisque la Guinée a désormais maintenant 6 points avec un goal à virage de plus 4. Maintenant, la Guinée peut entrevoir les deux prochains matchs avec beaucoup d'assurance, mais avec beaucoup de méfiance aussi, comme l'a dit l'entraîneur Michel Dussuyer.
Alors, qu'est-ce qui a changé entre ces deux confrontations face à l'Éthiopie et précédemment?
Ben écoutez, comme je l'ai dit, hein, il y a d'abord l'arrivée de Michel Dussuyer en tant que coach principal. Il était dans le comité, hein, dans le comité directoire qui était mis en place par la Fédération guinéenne de football. Et voilà. Mais depuis le limogeage de Chalipa Pakilé, Michel Dussuyer a donc pris les rênes de l'équipe. Sûrement que le discours a changé d'adversaire parce que Michel Dussuyer, il tombe pas de la dernière pluie. Hein, c'était un entraîneur assez expérimenté qui a roulé sa bosse un peu partout sur le continent. Donc, il a trouvé les mots justes pour essayer, en tout cas, d'abord d'assainir le vestiaire du Sili qui était un peu pourri, hein, ça aussi, il faut le rappeler, et donner confiance à certains joueurs qui avaient été mis à l'écart par les précédents entraîneurs, notamment Kaba Diawara et Chalipa Kilé. Ben lui, il a su, en tout cas, mettre en confiance ces garçons-là. Maintenant, schéma de jeu, là, il faut qu'on en parle. Alors, je rappelle un peu hein, la déclaration de Chirou Guirassy à l'époque de Kaba, qui disait que non, il n'arrivait pas à s'adapter au football africain, notamment au système de jeu mis en place par Kaba Diawara, ben, Michel Dessouyer a lui pu trouver les pions qu'il fallait mettre autour de Guirassy pour qu'il puisse briller. Et on l'a vu, en tout cas, l'attaquant de Dortmund s'est montré clinique hein, sur chacune de ses actions. Et voilà, et du coup, il est en ce moment le meilleur buteur de ses éliminatoires de la CAN avec 5 buts inscrits hein, pour lui. Et c'est justement grâce donc à la recette Michel Dessouyer. Mais on va s'emballer hein, parce qu'en face, il y avait l'Éthiopie. Ça manque de respect en tout cas aux Éthiopiens. Il reste en tout cas hein, ces deux matchs cruciaux pour le Chili. D'abord contre la RDC du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis ce déplacement-là en Tanzanie contre l'équipe de la Tanzanie qui avait battu la Guinée. Bien, on verra si vraiment c'est l'équipe de Chili a changé ou si elle peut vraiment faire rêver hein, les supporters guinéens.
S'il y a un homme qui est derrière ces deux résultats positifs, c'est Cherou Guirassy qui a marqué 5 buts. C'est le premier buteur des qualifications africaines. Des performances qu'il répète également en club, en Bundesliga, et qui peuvent lui permettre d'être un outsider ou un prétendant sérieux au titre de meilleur joueur africain de l'année, cérémonie qui aura lieu le 16 décembre prochain à Marrakech au Maroc.
On y croit fort. On y croit fort côté Guinée, notamment après donc ces belles perfs hein, lors de ces deux fenêtres internationales. Vous l'avez dit, avec Estin Butensri hein, pour Cherou Guirassy. Et hier également, championnat, il a marqué pour Dortmund. Il offre le but de la victoire à son équipe, bien évidemment. Et donc voilà. Mais en face, vous avez Lookman qui a été très bon la saison dernière en club et même pendant la CAN, parce que le Nigeria a disputé la dernière CAN battue par la Côte d'Ivoire en finale. Et voilà. En Europa League, on se rappelle un peu hein, de son triple humain pour l'équipe de l'Atalanta Bergame. Voilà, même si cette saison, ça encore tiré par les cheveux. Hein, Lookman brille moins encore cette saison, contrairement à Guirassy maintenant. Est-ce que le cœur des votants pencheront pour Guirassy qui est en train de flamber avec Dortmund ou bien ils vont encore ressasser hein, les perfs de Lookman la saison dernière? Ben, on attend de voir, mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas, les statistiques parlent pour Guirassy. Qui illumine hein, le continent africain de passer prouesse en club et maintenant en équipe nationale, il était vraiment très attendu. Eh bien, on verra bien hein, s'il pourra en tout cas doubler au dernier virage Lookman pour la course au Ballon d'Or.
Une course au Ballon d'Or qui sera passionnante jusqu'au 16 décembre prochain. En revanche, rien ne va pas ou ça ne va pas pour la sélection à prime qui a pris une manita au Maroc au stade Bachir Mohamedia lors du stage de préparation avant bien évidemment de faire un match nul. Il y a eu un léger mieux lors du deuxième match lors de ce stage qui s'est passé au Maroc, mais force est de constater que il va falloir bosser dur, cravacher dur avant d'avoir une équipe compétitive pour les prochaines qualifications du CHAN.
Ah oui, l'équipe donc concoctée hein, par Souleymane Camara Abedi affrontait l'équipe du Maroc hein, voilà en amical lors du premier match ça a été un 5-0.
Le shérif 5-0 tout à fait. Alors petit souci peut-être avec Chérif.
Oui, voilà, Chérif. Ça fait vraiment jaser ici en Guinée.
Chérif Alio.
Ça posait des questions du Chili à prime. Oui, on s'est posé la question. Hein, si le...
Alors, petit problème de connexion. Il va falloir quand même que Chérif Alio nous donne de plus en plus d'informations concernant ce match contre l'équipe du Maroc local. Chérif, tu nous entends?
Oui, Amine, je suis là.
Alors, on parlait de ce 5-0 et de cette manita qui n'a pas dû rehausser le moral de l'opinion publique en Guinée.
Absolument. Pendant ce 5-0, en tout cas, il y a eu beaucoup de cris hein, dans la presse. Comme quoi la sélection avait été mal faite hein, par le sélectionneur Souleymane Camara Abedi. D'ailleurs, son niveau a été même critiqué, hein, bien évidemment. Et puis, lors du second match, il y a eu un léger mieux avec ce match nul, 2-0 à l'arrivée. Mais on a compris que le Chili devra encore travailler, cravacher, hein, si elle veut être au niveau des autres nations. Parce que là, prendre comme ça 5 buts contre le Maroc et après casser 2 buts derrière, c'est assez compliqué. Maintenant, ils ont encore le temps pour essayer de parfaire la chose. Je rappelle hein, que la Guinée affrontera la Guinée-Bissau du second tour parce que la Guinée est exemptée du premier tour. Et voilà, en aller-retour. Et donc, au mois de décembre, bien évidemment, donc le sélectionneur a encore quelques semaines pour essayer en tout cas de peaufiner sa liste pour nous sortir en tout cas une équipe conquérante qui pourra qualifier la Guinée pour le prochain Chan, bien évidemment.
Merci infiniment, Chérif Aliou. On se retrouve très prochainement. J'espère que tout ira bien sur le plan santé et bonne chance et nos amitiés à nos amis, nos amitiés à tous ceux qui nous écoutent du côté de Conakry en Guinée. Il est 11h33. On va bien évidemment aller du côté de Tunis. C'est l'heure habituelle de Ahmed Adala. Bonjour.
Bonjour, cher ami. Bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
Et on attendait un sursaut d'orgueil des Aigles de Carthage après leur défaite à domicile face aux Comores. Il y a eu un léger mieux sur le plan du résultat, un match nul, un but partout, mais la Tunisie a encore frôlé la correctionnelle et je pense que l'opinion publique, les supporters ne sont mécontents.
Peut-être une correction, le fait que le supporter s'attendait à un rattrapage. Le résultat ne compte vraiment pas hein, par rapport au rendement qu'on a vu, par rapport à la copie rendue, et une très 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 mauvaise copie. Encore une fois, une grande déception. Et encore une fois, on parle d'un départ prématuré de Fawzi Benzerti, comme c'était le cas lors de ces trois passages à la tête de l'équipe nationale. Là, c'est un peu différent parce que c'est un comité de normalisation qui dirige la fédération et qui n'est pas prêt à ouvrir un autre chantier, tout en sachant qu'il nous reste encore une fenêtre FIFA, une trêve internationale durant le mois de novembre pour disputer et pour arracher la qualification à la CAN. Peut-être qu'il faudrait juste les 3 points pour se qualifier, mais avec ce rendement, c'est vraiment inacceptable, incompréhensible, et on ne sait même pas ce qui se passe au sein de cette sélection. La FTF, plutôt Fawzi Benzerti avait informé, avait présenté verbalement sa démission. La FTF l'a refusé parce que tout simplement ils sont pas prêts à ouvrir un autre chantier avec tous les chantiers qu'ils ont déjà.
Alors, à ton avis, que s'est-il passé entre les deux premiers matchs? On avait une copie correcte de l'équipe de Tunisie, ils ont pris 6 points sur 6, et cette fenêtre du mois d'octobre, où on s'attendait à ce que la Tunisie soit le premier qualifié pour la CAN, et pourtant, la qualification est en suspens encore. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est une question de jeu, donc de football, ou d'état d'esprit?
Je sais pas, mais on a déjà évoqué les problèmes que tout le monde connaît par rapport à la fédération. Il n'y a pas d'argent, il y a même des déplacements là où les joueurs n'ont pas eu leur argent de poche, il y a une limitation par rapport aux joueurs convoqués évoluant à l'étranger. La situation, elle est très critique sur le plan financier, c'est très simple. Quand il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de bonheur, donc je pense que c'est le vrai problème. Après, si l'on revient sur la trêve internationale, les journées FIFA du mois d'octobre, même lors du mois d'octobre, on en a parlé, il y avait une déception par rapport au rendement. C'est vrai qu'on avait gagné le Madagascar, avec tous mes respects à toutes les sélections et à toutes les nations de football en Afrique ou ailleurs, mais battre le Madagascar sur une tête à la 90 plus 8 à la 8e minute de temps additionnel, ça devrait laisser des interrogations, des séquelles. Et puis aller au Maroc dans des conditions, disons, favorables, et disputer un match contre la Gambie. Il est vrai qu'on n'avait jamais battu la Gambie, mais les Gambiens, on les a affrontés 2 ou 3 fois. Il n'y a pas de miracle derrière. Ils nous ont battus lors de la CAN 2021 parce qu'on était amoindri à cause de l'absence d'une dizaine de joueurs à cause de la Covid. Mais bon, peut-être 2-1 face à la Gambie au Maroc, ça a caché quelque chose, mais le sentiment était là. Les gens étaient déçus. Ils savaient que rien, qu'il y avait quelque chose qui passe pas, à part les problèmes d'argent et tout. Honnêtement, je suis en train de partager une information parce que les gens ici, ils disent que voilà, Fawzi, il doit absolument prendre sa retraite parce que il a un historique à respecter, il doit pas sortir par la petite porte. Pour lui, c'est le seul point noir durant toute sa carrière. Il a tout gagné, il a tout remporté, mais la sélection, apparemment, ça va rester son point noir.
Il a quel âge maintenant?
74.
Eh ben, à un moment ou à un autre, on lui souhaite longue vie, mais il va falloir peut-être arrêter de stresser, parce qu'on a vu une image où il était en train de pousser ses joueurs, moi je dirais pas autre chose, et derrière il y avait des joueurs qui rigolaient. Est-ce que c'est la preuve qu'il y a certains laissés-aller, pour ne pas dire du je m'en foutisme, dans cette équipe de Tunisie?
Il y a deux images en fait. Celle dont tu parles, l'image d'Ali Al-Abdi et Ali Ghram, ils regardaient quelque chose au téléphone, Ali Al-Abdi qui est ordiste. Et malgré ça, il était sur le banc. Donc c'était le premier indice que il y a pas de contrôle, il y a pas de règles à suivre au sein de la sélection. Ça s'est passé évidemment ailleurs en France avec plusieurs joueurs ou ailleurs en Europe, mais là en Tunisie, on n'est pas habitué à des tels trucs. Peut-être que Ali Gharam, le défenseur de Shakhtar, a eu peur de la réaction de Fawzi. Fawzi était mécontent par rapport au rendement de l'équipe nationale. Et à la deuxième incident lors du match retour face aux Comores à Abidjan, lorsque il y a eu cette touche entre Fawzi Bezart et Hanabal mécontent, il a répondu par un geste, peut-être une réaction qui explique qu'il était un peu furieux. Pourtant il était le meilleur joueur, mais ça se voit qu'il y a pas vraiment, comment dirais-je, je dois peser mes mots, mais il n'y a pas des règles à suivre, il y a un manque de respect quelque part, j'accuse personne, mais les choses, elles sont pas faites dans les règles de l'art. Donc du coup, il faut faire un changement. Après, il faut vraiment le dire et le souligner, même le staff, il travaille dans des conditions très, 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 très difficiles. On n'a jamais, jamais, jamais vu une équipe nationale évoluer avec un tel rendement et surtout dans de telles conditions. Fawzi, il n'a jamais eu de chance avec l'équipe nationale et je pense que cette fois-ci, apparemment, c'est le cas. Sauf si, pour le prochain stage du novembre, peut-être qu'il va se rattraper, tout en sachant que il y a plus que ça. Il y a aussi la participation au CHAN, la décision a été apparemment prise, on va y participer, mais est-ce que ce staff sera là ou non? On le saura, parce que en janvier, on aura un nouveau bureau fédéral.
Un nouveau bureau fédéral. Dans la Libye voisine, il y avait un match qui pouvait faire saliver, c'était logiquement Libye-Nigeria, mais il y a eu des incidents qui ont fait que ce match-là n'a pas eu lieu, et surtout que la décision par rapport à ce match-là va incomber à la commission de discipline de la CAF. Que s'est-il passé réellement? Parce que franchement, on n'a rien compris. On s'est contenté de la version nigérienne avec les joueurs qui ont protesté, qui ont dit qu'ils avaient été retenus pendant une dizaine d'heures dans un aéroport situé à 250 km de Benghazi. Quelle est la version libyenne de l'histoire?
Bon, il y a deux versions, mais on va dire les choses selon les informations qu'on avait reçues de part et d'autre. On est arabe, on est libyen, ce sont nos frères, mais il faut pas oublier que c'est vrai qu'on va être de leur côté, mais les choses doivent être dites comme elles le sont. Pour le premier match aller, ils ont été très mal accueillis, les Libyens, nos frères libyens, ils ont été très très mal accueillis. Ils ont changé d'aéroport à la dernière minute, au lieu de descendre d'atterrir à Aïou, ils ont là où le match devait se jouer. Oui, ils ont été renvoyés vers un autre aéroport, je pense à Ercoute ou un truc comme ça. Et ils ont fait la route pendant la nuit sans escorte, sans protection, sans rien. Ils ont été laissés comme s'ils étaient, je sais pas, même pas des touristes. Donc ils ont été très 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 mal accueillis. On sait tous ce qui se passe au Nigeria. On a l'expérience avec le club tunisien, la finale, la fameuse finale étoile contre Inimba, ou peu importe. Donc ou d'autres confrontations. Pour le match retour, les Libyens, ils voulaient faire la même chose. Donc, au lieu de leur permettre d'atterrir à Benghazi, ils les ont renvoyés vers un autre aéroport à 400 km, je pense, ou 350 km, à un aéroport utilisé pour le Hajj. Donc, ils sont arrivés, ils sont entrés dans la salle VIP, et là, on les informe que le système n'est pas fonctionnel, on peut pas leur délivrer des visas, on va attendre, le système va reprendre dans 1, 2, 3, 4 heures, après on sait pas, après ils ont donné les visas, ils ont délivré les visas d'entrée, ils ont permis aux joueurs et au staff et toute la délégation d'accéder, de sortir, de quitter l'aéroport, là ils découvrent que le bus ils sont petits, les mêmes bus qui ont été fournis aux Libyens lors du match aller. Donc c'était pratiquement les mêmes, le même comportement.
Le fameux principe de réciprocité, c'est pas beau
exactement
à voir.
Exactement. Mais le truc là, c'est que les Libyens au Nigeria, ils ont accepté de jouer, ils ont surmonté ce problème, ils ont mis à côté, mais les Nigériens, bien sûr, avec toutes les stars qu'ils ont, avec tous les joueurs,
ils ont refusé.
Voilà, avec tous les comptes Instagram, avec 10 millions de joueurs, des gens qui les suivent, ils ont pu influencer les médias. Et voilà, une personne comme Fabrizio Romano, bien sûr, s'il diffuse, il reprend une vidéo peut-être publiée par un joueur, une star nigérienne, ça va avoir un impact. Donc, c'est très compliqué pour la Libye.
Et c'est très compliqué pour la CAF, surtout.
Exactement.
Parce qu'elle je m'attends à ce que la CAF attende la fenêtre de novembre pour voir si le Nigeria est qualifié, pour pouvoir dire, allez, ce match, on le joue pas, et après, il y aura une sanction financière. C'est en général les us et coutumes dans notre confédération. Merci beaucoup, Ahmed Adel. On se retrouve le week-end prochain. Il est 11h44, on va à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour, David Eyengue. Alors on va très rapidement pouvoir le joindre. C'est l'objectif, c'est d'aller en Afrique centrale et de retrouver notre ami David pour pouvoir fêter un peu la qualification du Cameroun. Le Cameroun qui a réussi à gagner ses deux matchs face au Kenya et qui a, je dirais, fait oublier toutes les querelles entre la FECAFOOT, le ministère, Marc Brice au milieu, son assistant est là, il n'est pas là, le public, Samuel Eto'o, toutes ces histoires qui on fait, je dirais, pendant de nombreux mois, la une des différents organes d'information spécialisés dans le football africain. Alors, si c'est pas possible de l'avoir, on va bien évidemment aller à Lomé, au Togo, pour retrouver Jean-Modeste Ouédraogo. Bonjour Jean-Modeste.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mass.
Et on va féliciter les premiers qualifiés sur le terrain, qui étaient les étalons du Burkina, qui ont battu l'équipe du Burundi. Bon, c'est devenu une habitude d'aller à la CAN.
Ah ben oui, le rendez-vous du Maroc. On ne pouvait pas donc rater ce rendez-vous-là. Donc il fallait tout faire pour se qualifier. Je pense que les garçons ont fait le boulot. Ils ont réussi à battre le Burundi sur le score de 4-1 déjà au match aller. Et puis au retour, ils ont réussi à faire 2-0. Je pense que c'est le plus important, c'est l'essentiel, c'est la qualification. Maintenant, ben écoutez, il y avait aussi un petit souci. L'entraîneur avait écarté un certain nombre de joueurs, notamment les cadres. Issoufou Dayo, le joueur du RS Berkane, et puis le capitaine Bertrand Traoré. Et finalement, il les a tous rappelés. Je pense que c'est aussi le fruit de la solidarité, le fruit de l'environnement qui retrouve sa sérénité. Je pense que c'est tout ça mis ensemble qui permet au Burkina Faso de se qualifier pour la CAN au Maroc. Le Maroc qui est la terre d'accueil de l'équipe Burkina, parce qu'on a joué au Maroc pendant plusieurs années avant de chercher maintenant à aller au Mali et puis maintenant en Côte d'Ivoire. Je pense que le Maroc et le Burkina sont deux pays amis et on ne pouvait pas manquer vraiment ce rendez-vous-là.
Rendez-vous, les étalons seront là en outsider. Il y a des déclarations tout de même qui parlent d'ambition, parce que l'objectif cette fois-ci, c'est pas d'aller uniquement faire de la figuration ou une bonne participation. J'ai l'impression qu'on y croit du côté burkinabé. Ils m'ont pris pour un fou, mais on peut gagner. La CAN a prédit un ancien étalon.
Ah ben oui, Charles Kabouré, l'ancien capitaine des étalons, qui a affiché clairement les ambitions de Burkina. Voilà, il le sait, lui qui a joué donc une finale en 2013 et qui a joué une demi-finale en 2017 au Gabon, il sait très bien que la CAN au Maroc est une CAN où il faut aller chercher le trophée, parce que c'est ce qui manque au palmarès du Burkina aujourd'hui, parce que le Burkina quand même fait partie des pays qui comptent dans le football africain, mais a un palmarès toujours vierge. Donc il faut aller chercher donc ce trophée-là du côté du Maroc. Et Charles Kabouré ne se cache pas du tout. Il le dit à haute et intelligible voix pour que les adversaires du Burkina puissent savoir que le Burkina arrive au Maroc dans la peau d'un outsider très sérieux pour la conquête du trophée. Et je pense que les moyens, est-ce que le Burkina a les moyens? La réponse, c'est oui, parce que le Burkina va chercher à mettre à son actif, hein, voilà, tous les moyens humains déjà, parce que vous avez dû entendre parler de Alban Lafont, le gardien du FC Nantes, que le Burkina courtise aujourd'hui pour venir renforcer l'effectif de Burkina. Ça veut dire que le Burkina va chercher à renforcer son effectif avant d'arriver au Maroc.
Merci infiniment Jean-Modeste Ouédraogo en mission déplacement du côté de Lomé au Togo. Il est 10h47 à Casablanca, 10h47 sur la partie ouest du continent. Tous ceux qui sont sur le méridien de Greenwich, cette fois-ci c'est promis. On va aller au Cameroun retrouver David Yengue. Bonjour David, est-ce qu'il est prêt? Voilà, ça se joue sur une fraction de seconde, ça se joue sur le temps d'une connexion. Il répond toujours présent au rendez-vous. Allô. David Yengue, bonjour et félicitations pour les Lions indomptables du Cameroun, de nouveau qualifiés facilement pour la CAN.
Bonjour à Mille, bonjour à tout le Maroc, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Eh bien oui, le Cameroun est qualifié pour une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, qui va se passer presque dans notre pays. Le Maroc, c'est le pays où nous avons gagné la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de notre histoire en 1988. Donc, ce trophée nous avait été remis par celui qui était encore à l'époque le prince Mohamed VI, qui est aujourd'hui le roi. Quoi de plus normal de venir, n'est-ce pas, chercher à remporter un sixième trophée, n'est-ce pas, qui sera remis par le roi Mohamed VI.
En tout cas, remis par quelqu'un de la famille royale, Inch'Allah. En tout cas, ça dépendra du protocole et ça dépendra de beaucoup de choses. Mais ce qui compte, c'est que, en dépit des querelles, en dépit de cette zizanie, le Cameroun est fidèle au rendez-vous et s'est qualifié beaucoup plus facilement que pour l'édition de la Côte d'Ivoire.
Oui, il faut dire qu'il y a une nouvelle dynamique dans les Lions indomptables qui fait que les Lions, il y a cette polémique là au Cameroun qui met un peu de pression aux Lions indomptables qui n'ont plus d'autre choix que de gagner les matchs quand ils s'en vont rencontrer des adversaires. Alors, on a rencontré un adversaire qui s'appelle le Kenya en double confrontation, qui avait au départ le même nombre de points, qui avait la même idée, c'est-à-dire celle de se qualifier directement aussi en remportant les deux matchs. Les Kenyans qui n'ont jamais remporté un seul match contre les Lions indomptables sont venus et se sont vus trop beaux parce que ils se disaient que le Cameroun avait quelques soucis et ils ont annoncé de grandes choses. Ils ont été cueillis à froid à Yaoundé, 4-1 avant d'être battus encore dans un stade à huis clos. On ne sait pas pourquoi ils ont demandé le huis clos, mais un stade de foot en 2024, comme si on jouait pendant la Covid, eh bien, ça leur a seulement suffi, n'est-ce pas, pour être puni. 4-1 et 1-0 pour le match retour et le Cameroun est directement qualifié.
Et le Cameroun sera au rendez-vous. Toute dernière question, cher David. Est-ce que la greffe avec Marc Brice a pris, est-ce que les joueurs sont solidaires avec leur entraîneur? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont pris parti dans ce conflit et ce n'est pas l'avantage du président de la FECAFOOT.
Ou pas du tout. Africa Foot, il y a 30 millions de Camerounais qui attendent que les Lions indomptables gagnent toujours et c'est tant mieux. Si les joueurs sont en phase avec l'entraîneur, heureusement pour eux, ils gagnent. Heureusement pour le Cameroun, ils gagnent et c'est tant mieux. Mais on sait quand même que cette équipe, elle gagne, mais il y a toujours des choses à redire parce que notre axe central est dirigé par quelqu'un, un défenseur central qui a des soucis. On voit qu'il a des problèmes physiques et on a aussi la pointe de l'attaque qui, bien que meublée par Aboubakar Vincent, a des soucis. Donc, il va falloir que le Cameroun le regarde encore bien dans ses multiples joueurs à travers le monde entier pour renforcer cette équipe aussi bien dans l'axe de la défense avec Gandungadu qui ne risque pas d'être en très grande forme en 2025 au Maroc et bien entendu Aboubakar Vincent. Mais pourquoi, comment ne pas terminer cette partie camerounaise de l'information avec la brillante victoire. Vous savez bien que le monde entier garde à l'esprit, n'est-ce pas, la très très brillante victoire de Francis Ngannou cette nuit sur le Brésilien Renan Ferreira. Voilà, l'homme le plus fort du monde est encore camerounais, l'homme le plus fort du monde est africain, et c'est bravo, bravo, bravo pour nous.
Et c'est du MMA, et on va revenir au football, restez là. Merci beaucoup David Eyengue, on va revenir au football, et terminer avec notre ami Michel Tobo depuis Kinshasa en RDC, la République démocratique du Congo a tenu son rang et s'est qualifié avec brio. Bonjour Michel.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci encore de me donner ce petit moment justement pour réagir par rapport à l'actualité sportive ici chez nous en République démocratique du Congo. On commence bien évidemment par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 hein, avec cette qualification, je dirais même belle qualification hein, de Léopards d'Afrique démocratique du Congo pour cette prochaine édition. À peine 4 journées, hein, les fauves congolais ont réussi justement à composter leur billet pour cette compétition, ce qui est une très bonne nouvelle. C'était le souhait, en tout cas, de l'ensemble de l'opinion publique sportive nationale, donc qui voulait que les Léopards voilà, se qualifient au bout de, voilà, de 4 journées. Donc voilà, c'est une bonne chose. C'est chose faite. Hein, les deux prochaines journées, voilà, certainement que Sébastien Desabre va se permettre de, voilà, de tourner à son effectif hein, pour donner un peu du temps de jeu justement à. Allez, entre guillemets, on va dire aux réservistes. Hein, voilà, à ceux-là qui n'ont pas encore eu. Assez de temps de jeu au sein de cette sélection, donc voilà, il fallait être très prudent, je l'avais dit la semaine dernière, hein, être très prudent face à cette équipe tanzanienne qui avait montré des très bonnes choses au match aller, malgré la défaite 1-0, le 1-0 est un but marqué contre son camp par un défenseur tanzanien, mais au match retour, c'était presque la même physionomie, hein. Lors de la première période, voilà, les Tanzaniens ont poussé, voilà, mais bon, grâce, on va dire, à la solidité défensive congolaise qui caractérise en tout cas cette équipe depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, hein, la défense congolaise a tenu bon et voilà, avec les quelques changements qui ont été apportés dans les 5 dernières minutes, hein, même dans les arrêts de jeu, on va dire comme ça, les Léopards ont réussi à faire la différence en hein, profitant justement de quelques errements défensifs du côté tanzanien pour faire la différence. Voilà, la qualification est acquise. Il faudra maintenant se concentrer sur ceux de la Coupe du Monde hein, qui vont arriver voilà, dans les prochains jours. Mais c'est une bonne chose déjà que les Léopards se sont qualifiés avec de la manière quand même. On va le dire comme ça, bien qu'il y a encore beaucoup quand même à rejouer. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport justement à ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'autre actualité, c'est bien évidemment hein, le championnat d'Afrique de Nations. Voilà. Il y a 2 ans en Algérie, ça ne s'est pas très bien passé pour la sélection de la République démocratique du Congo. Voilà, l'équipe a été éliminée au premier tour. Hein, et surtout la stat qui choque, hein, l'équipe n'avait pas marqué le moindre but. Voilà. Lors de cette compétition, c'est ce qu'il faudra tenter justement de corriger en commençant déjà par ce premier tour hein, face au Tchad, hein, au match aller-retour, un adversaire abordable. C'était déjà le Tchad hein, que les Léopards avaient croisé justement il y a 2 ans lors voilà, du préliminaire de la zone 4, hein, Afrique centrale. Donc c'est le même adversaire. Et il faudra faire un effort en tout cas justement hein, du côté congolais pour voilà, tenter de juguler voilà, cet adversaire et puis voilà, aller chercher la qualification hein, pour justement le pas d'aller laver l'affront subi en Algérie il y a 2 ans justement du côté de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Kenya, là où ces compétitions vont se disputer. L'autre actualité, Sur le plan national ici, c'est bien évidemment la Coupe d'Afrique de Nations de boxe qui se dispute ici à Kinshasa. Voilà, et la République du Congo, après justement l'organisation des Jeux de la Francophonie, commence petit à petit à abriter des grandes compétitions. Au mois de novembre, nous aurons la Coupe d'Afrique des Nations à Dame. Hein, donc voilà, et on commence par la boxe où la compétition s'est ouverte le samedi 19 octobre, hein, avec 10 combats qui se sont disputés. Voilà, donc c'est une bonne chose que les Congolais aient organisé cette compétition qui ira jusqu'au dimanche 26. Hein, voilà, parce que c'est le Maroc, hein, voilà, Amine, qui a remporté la dernière édition. Et la République démocratique du Congo était justement deuxième. L'objectif des Léopards, et bien évidemment, c'est tenter, ça sera difficile. Bien évidemment, on le sait, mais bon, tenter justement de détrôner les Marocains, hein, qui sont sortis à premier lors de la dernière édition. C'est possible. La compétition se dispute sur le plan à domicile parce que les Léopards ou le staff technique de la République démocratique du Congo aligne quand même 25 boxeurs. Voilà. 12 chez les dames et 13 chez les messieurs. Il y a des possibilités en tout cas, voilà, d'aller chercher